Bonjour à tous. Nous saluons l'Église connectée, nous vous bénissons. Et je dis au passage à l'Église connectée qu'il reste des places. Donc n'hésitez pas à venir en présentiel. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Ce matin, on veut faire résonner le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ?
Mon roi, en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs.
Que les murs tremblent.
Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus.
Chantons ensemble que les murs tremblent.
Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus.
Acclamons le Seigneur, c'est Jésus, c'est Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est lui que nous ovationnons ce matin.
Devant lui prosterner, entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, et ton nom et tout puissant, oui, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, oui, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint.
Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique. Son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint. Toi le roi des rois, tu es saint. De l'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu. Jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint.
Toi le roi des rois,
toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es. Tu es saint, jamais tu es saint.
Seigneur, nous te contemplons, tu es tellement bon. Et Seigneur, nous nous réunissons autour de toi. Autour de la croix, Jésus, à quoi sert-il de se réunir si le message central de la croix n'est pas là? Alors aujourd'hui, je veux chanter ce chant, que la croix seule me suffit.
verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Seul ne suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit.
Femme croit. Pourquoi ? Pour nous donner la vie, pour nous sauver de nos péchés. Le mot péché, l'étymologie, c'est manquer l'objectif. On était éloigné de Dieu et Jésus nous a réconciliés. Alors ce matin, est-ce que tous autant qu'on est, on peut considérer la croix, l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, sa mort, son sang a coulé. Et je voudrais qu'on considère une chose encore plus grande. Non seulement il est mort, et aux yeux de tout le monde, c'était un échec, mais la victoire réside dans la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Jésus ? Est-ce qu'on peut l'acclamer ? La croix seule me suffit. Aussi se souvenir de la bonté de Dieu à notre égard. Apprendre ce chant, la bonté de Dieu.
je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est grand. Tu as toujours, tu l'as toujours été fidèle. Tu as toujours, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu.
Je louerai l'éternel. sujet de ma joie. Alléluia.
Je louerai ensemble.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toute
notre Dieu qui est l'auteur de notre joie, qui est l'auteur de toute bénédiction qui se renouvelle à chaque matin. Je pense qu'il mérite mieux que ça. Combien peuvent lever la main et dire Dieu a été fidèle cette année envers moi? Dieu a été fidèle depuis le début de l'année 2024 envers moi dans tel domaine, quand j'ai passé telle difficulté ou même quand j'ai traversé telle victoire. Dieu a été là dans toutes les situations de ma vie. Moi je lève la main, je lève même les deux mains. Yes. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois, celui qui est fidèle envers nous? Amen, merci à l'équipe de louange, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, de se rappeler à quel point il est fidèle, à quel point il est bon, à quel point il sera fidèle aussi pendant la rentrée qui arrive, pendant ce trimestre qui arrive, l'automne. C'est la rentrée comme on a prié juste avant de la célébration, ce qui veut dire rentrée, ce qui veut dire service qui reprennent aussi à l'église. L'église de l'Épi, c'est une église remplie de vie. Il y a différents groupes de vie, il y a différents pôles, départements, services. Donc on est vraiment content d'avoir cette rentrée dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a différents services qui vont reprendre. Et ça commence tout de suite justement avec le parcours formation baptême. Cette année, on a eu la joie, le privilège et l'honneur de célébrer plus de 30 baptêmes, même 35 baptêmes à l'Épi cette année. Combien sont reconnaissants d'avoir des gens qui s'engagent à travers les eaux du baptême, qui disent « Jésus m'a transformé, je vais le témoigner ». Non ? On fait ça pour ça quand même un petit peu. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait dans les vies? Ça fait beaucoup d'applaudissements, mais je pense que Dieu mérite. Parcours formation baptême qui va débuter le mercredi 11 septembre. Ça dure à peu près 3 mois. C'est tous les mercredis soirs au rez-de-chaussée. Donc si vous êtes intéressé, si c'est la prochaine étape de foi pour vous, le baptême, allez au point accueil qui se trouve maintenant à droite. C'est le premier kiosque qui se trouve à droite. Remplissez un formulaire, on va vous rencontrer et vous allez pouvoir débuter cette formation baptême. Et elle est aussi ouverte pour ceux peut-être qui sont déjà baptisés mais qui veulent revoir les bases de la foi. N'hésitez pas à venir, c'est pas juste pour ceux qui veulent prendre le baptême, c'est obligatoire pour eux parce qu'on pense que c'est important d'avoir des bonnes bases pour comprendre pourquoi je me fais baptiser. C'est pas ça qui change la vie, mais c'est pour montrer, ok, je veux suivre Jésus et je veux le témoigner et je veux suivre l'exemple de Jésus également. Mais si tu veux juste revoir les bases de la foi, va t'inscrire. C'est aussi pour toi, c'est riche, il y a de l'enseignement, il y a vraiment des choses qui peuvent encourager ta foi également. C'est la rentrée des enfants également, les 4-17 ans qui vont rentrer, donc ça veut dire les enfants, les pré-ados, les ados également, ils vont rentrer le 15 septembre. Donc il y a déjà des fiches à signer pour les parents, pour les enfants. Vous verrez, il y a un petit stand dans le hall justement pour épisode, pour signer les fiches pour les parents, pour les mineurs notamment, et enfin pour les enfants. Et il y a aussi un grand besoin. Combien sont reconnaissants d'avoir plein de bénévoles qui gardent les enfants, qui gardent les enfants, qui sont auprès des enfants, qui encouragent les pré-ados, les ados, dimanche après dimanche. Moi, je suis reconnaissant de ne pas avoir mes deux filles dans mes pattes en ce moment pendant que je suis sur l'estrade, ok? Donc, merci à tous les bénévoles, épisodes et pitchounes qui sont là. Combien je suis reconnaissant d'avoir des bénévoles qui sacrifient leur dimanche aussi, souvent pour garder les enfants. Vous savez quoi? Ils ont besoin d'aide. On a besoin d'avoir des gens passionnés qui aiment les enfants et qui veulent avoir une influence, un impact dans leur vie aussi. Donc n'hésitez pas à aller directement au point d'accueil. Il y a un formulaire à remplir pour ceux qui veulent s'impliquer et ça nous fera vraiment plaisir de renforcer l'équipe afin d'avoir encore plus de fruits dans la vie de nos enfants, pré-ados et ados. Amen. C'est aussi la rentrée de d'autres enfants un peu plus âgés, les aînés. Les aînés qui reprennent le vendredi 6 septembre, pardon. Donc c'est tous les premiers vendredis de chaque mois à 14h30 au Rechuseba dans la salle polyvalente. Et pour avoir toutes les dates disponibles, donc c'est vendredi chaque mois, mais on a créé un flyer, ce que vous pouvez mettre sur votre frigo, aller juste au présentoir dans l'hall. Justement, on a mis toutes les informations de tous nos événements et il y a le petit feuillet qu'on a imprimé. Et vous nous excuserez, mais on a oublié un petit S sur un petit mot. Je vous laisse chercher, ce sera le petit devoir de la rentrée, ok? Il y a une petite faute d'orthographe, mais on a fait ça pour vous donner un petit peu de devoir pour ceux qui sont plus à l'école. C'est bon pour vous ? Rentrée des années et aussi un groupe de vie. Tous les groupes de maison vont rattraper. Puis à la fin du mois, on va vraiment faire un focus dessus. On va en parler parce qu'on pense que c'est important de participer à un groupe de maison, un groupe de vie. Et en parlant de groupe de vie, il y a les repas fraternels qui reprennent avec Anne et Sandrine, pardon, qui sont les responsables. Donc, il y a une nouvelle session qui va débuter. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a aussi une table haute. Vous verrez juste à gauche de la librairie une table haute pour s'inscrire. L'idée, c'est quoi? C'est si vous avez à cœur d'accueillir chez vous et aussi de se faire inviter. Mais le but, c'est quand même d'accueillir chez soi et après, on tourne, on se fait inviter. Eh ben, allez-y, inscrivez-vous. Vous allez rencontrer des personnes extraordinaires. Vous allez tisser des nouvelles relations, koinonia, des nouvelles amitiés. Vous allez encourager et être encouragé. Entre guillemets, c'est tout bénef. Okay, Jésus vivait ça avec ses disciples, avec d'autres personnes aussi. Donc je vous encourage vraiment à aller vous inscrire dans le hall, juste à gauche de la librairie. J'ai fini pour mes annonces, juste vous dire, on est le premier dimanche du mois, mais la Sainte-Seine se fera la semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment un message, une prédication qui est vraiment en lien justement avec la Sainte-Seine, avec la grâce de Dieu, la grâce de Jésus envers nous. Donc vous inquiétez pas, on prendra la Sainte-Seine la semaine prochaine. Et juste encore un petit mot sur tout le réaménagement qui a été fait dans le hall. Soyez rassurés, la signalétique va être mise bientôt. On fait une chose après l'autre, on a vraiment mis tous nos efforts et je veux remercier au nom justement de avec Fredo en tant que responsable accueil, je suis avec Fredo en tant que responsable accueil justement, je veux remercier toute l'équipe accueil qui nous a aidés. On a été une dizaine samedi dernier et puis en fait ça fait des mois comme Mathieu l'a dit la semaine dernière qu'on travaille dessus, qu'on rêve d'avoir un hall encore plus accueillant. Il était déjà cool le hall mais on voulait avoir un hall encore plus accueillant, plus organisé et surtout avoir un espace pour accueillir les nouvelles personnes. Parce qu'on croit que c'est aussi le cœur de Jésus, d'accueillir les nouvelles personnes et de leur offrir une Bible, un sac cadeau. Donc tout ça, c'est en préparation. Donc il est en finalisation au niveau du hall. J'ai fini pour mes annonces. Je vais inviter Mathieu qui va partager la parole avec nous. Et on débute une nouvelle série. J'ai vraiment hâte qu'on entende ce que Mathieu a à nous dire. On va juste prier pour lui, si vous le voulez bien, que Dieu parle à travers lui. Seigneur, on veut te remercier pour ce matin, on veut te remercier pour la louange qui nous rappelle, qui nous ramène auprès de ton cœur, qui nous ramène dans ta présence. Et maintenant, on veut écouter ce que tu as à nous dire. Donc viens préparer nos cœurs encore, viens Seigneur nous rendre enseignables à l'écoute. Et on te prie que tu puisses parler vraiment à travers Mathieu. Donc merci pour tout, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jérôme pour ses annonces dynamiques de la vie de l'Église, franchement? Voilà, si je ne vous ai pas encore salué, je vous salue chacune et chacun. Bienvenue à l'EPI. Nous démarrons aujourd'hui une série de 6 messages sur notre culture d'église ici à l'EPI. Cette série s'appelle Culture et nous croyons que cette série va aider la famille de l'EPI ainsi que vous qui arrivez peut-être à Strasbourg pour les études, pour le travail, à découvrir comment l'évangile nous anime en tant que chrétiens ici à Strasbourg, à l'EPI. Et comment il se vit concrètement dans notre église locale. Quand une communauté, un groupe, une famille, une nation, une association, un couple se forme, une culture se crée. Qu'est-ce qu'une culture ? Une culture est un ensemble de valeurs, de pratiques, de croyances qui caractérise une communauté et qui caractérise ce qu'elle veut vivre au quotidien. Exemple. Je suis de culture réunionnaise. Et dans ma culture, quand on invite quelqu'un qu'on ne connaît pas bien à manger à la maison, voilà ce qu'on fait. On va préparer 2 repas différents. Un avec de la viande et un sans viande, légumes ou poissons, Erika, ça dépend. Pourquoi ? Parce que dans la culture réunionnaise, l'arrière-plan religieux d'une personne n'est absolument pas un problème. Et si on ne connaît pas la personne, sa religion, sa croyance, dans certaines religions, on ne mange pas de viande. Et pour ne pas choquer la personne, pour ne pas mettre mal à l'aise la personne, quand elle arrivera chez nous, elle aura le choix entre 2 caries. Ça, c'est ma culture. Et vous avez sans doute, oui, 2 caries, ça c'est incroyable, le curry, si vous n'avez jamais goûté. Un petit curry poulet, un petit rougail saucisse, pour les connaisseurs, un petit boucané bringel. Oh, il y en a qui connaissent. Vous aussi, vous avez sans doute votre culture personnelle. Elle a été façonnée par votre famille, par votre pays d'origine, par vos choix de vie. Et nous sommes une église avec une culture propre. Nous avons des valeurs, des croyances, des pratiques dont certaines sont spécifiques et que vous ne retrouverez peut-être pas ailleurs dans d'autres églises de la Plaine des Bouchers, en France ou dans d'autres pays. Par exemple, Jérôme en a parlé, nous privilégions les groupes de vie plutôt que les réunions centralisées en semaine. Nous en avons des temps de jeûne et de prière, mais nous encourageons à se rencontrer dans les maisons, à se rencontrer dans les quartiers, dans les petits groupes de vie. Et depuis que le pasteur Daniel Hébert a lancé, développé avec toute une équipe les petits groupes, les plus anciens s'en souviendront, les petits groupes sont devenus culture de l'église. Les petits groupes font partie de notre vie d'église et au fur et à mesure des années, ils ont pris différentes formes. La scène, par exemple, le partage du pain et du vin, nous la pratiquons ici à l'Épi une fois par mois en grande église et plus ou moins souvent dans les groupes de maison. Et exceptionnellement, comme tu l'as dit, la semaine prochaine, parce que le message central est en lien avec cela. D'autres églises, j'ai découvert ça en voyageant un peu, en étant en contact de chrétiens anglophones ou d'autres nations. Certaines églises la prennent une fois par an. D'autres la prennent deux fois par mois. Certains utilisent le jus de raisin, d'autres le vin. Et il y en a même qui se lavent les pieds pendant qu'ils vont prendre la scène. Qui est d'accord que je lui lave les pieds ce matin? Oh, il y a quelqu'un qui a levé la main, punaise. Fénor, on se prend rendez-vous et... hein? D'accord, ok. Lors d'un voyage à Madagascar, on a été invité dans une église. Ils avaient à cœur de prendre la scène avec nous. On se pose et les éléments arrivent. Il y a du pain qui arrive et tout d'un coup, il y a du sirop de grenadine. Moi, dans mon cœur, tout de suite, j'ai dit « hop, 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 hop ». C'est pas biblique, ça. Moi, je lis dans la Bible du pain et du vin. Et alors que ces gens m'accueillent, cette église locale m'accueille, à l'intérieur de moi, je suis en train de parler mal. Et du coup, on nous avait appris en mission que c'est très important d'écouter les gens. De pas tout de suite venir avec nos grands sabots, notre compréhension culturelle, mais de venir écouter. Et j'ai compris qu'en fait, cette église n'avait pas les moyens, ça coûtait trop cher, d'acheter du jus de raisin ou d'acheter du vin. Donc ils avaient mis à côté leurs économies pour essayer de nous offrir quelque chose pour prendre la scène. Et ce qu'ils avaient trouvé en rapport avec leur capacité financière, c'était du sirop de grenadine. Je me suis pris une claque en pleine figure, avec tout mon orgueil et ma manière de voir comment on devrait faire. J'en avais oublié que l'homme regarde beaucoup à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Une autre spécificité qu'on aime énormément et qui est dans notre culture, la complémentarité entre hommes et femmes dans les responsabilités, dans la gouvernance de l'Église, dans la prédication, dans les missions pastorales, ça fait aussi partie de notre culture aujourd'hui ici à l'Épi. Et voici une grande vérité que nous oublions souvent, qu'on a du mal à intégrer, du mal à accepter. Jésus n'a pas voulu fonder une église figée sur un modèle unique, enfermée dans le contexte historique de l'an 33 après Jésus-Christ. Jésus est venu bâtir un organisme vivant. Jésus est venu bâtir une communauté de disciples capables d'atteindre le monde entier avec un message unique à travers des moyens aussi variés que le sont les ressources de Dieu. Siècle après siècle, nation après nation, pays après pays, ville après ville, quartier après quartier, famille après famille, une vie à la fois. Et c'est tout le défi d'être une église internationale comme nous le sommes ce matin, implantée en Alsace, dans une eurométropole, en 2024. Le défi d'être une église qui est fidèle, fidèle aux enseignements du Christ, fidèle à ses enseignements, ses principes, ses commandements, tout en restant culturellement pertinent pour les membres de l'Église qui vivent la vie d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui vont découvrir l'Évangile et qui vivent dans notre société aujourd'hui, et cela année après année. Et c'est tout l'objectif de cette série. Nous voulons, avec cette série, vivre et renforcer la culture du royaume de Dieu ici, à l'Épi. Pourquoi ? Pour en faire un témoignage puissant et pour toucher nos contemporains avec l'Évangile. Et voici de quoi sera composée cette série. Nous allons ensemble redécouvrir et nous encourager à être une église où les tensions relationnelles sont transformées en opportunités. C'est avec moi ce matin. Une église qui prêche la grâce de Dieu sans légalisme ni compromis avec le péché. Ça sera avec Raymond-Pierre Fagnard. Une église qui accueille et qui forme à travers sa diversité intergénérationnelle. Ça sera avec Anne. Une église qui affirme la pertinence et l'autorité de la Bible encore aujourd'hui pour notre époque. Ça sera avec Mackensen. Une église contemporaine qui proclame l'évangile de Jésus-Christ à travers une culture ambiante, à travers cette culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça sera avec Jérôme. Et enfin, une église où l'engagement bénévole est valorisé pour le bénéfice de tous. Et ça sera avec vous tous lors des portes ouvertes de l'Épi. C'est vous qui serez la prédication incarnée ce jour-là. En résumé, une série pour mieux accueillir, mieux accompagner, mieux proclamer l'Évangile. Amen. Vous êtes prêts? Ouais? On y va? Ok. Avec moi ce matin, on va parler de la culture koinonia de l'Église. Je sais que c'est dur à prononcer. Certains en parlent et maintenant c'est rentré dans la culture, mais on a du mal à le prononcer. Donc je vais le prononcer et après vous allez le prononcer, d'accord? Koinonia, à vous. Ah, il y en a qui font koinonia? Non. Koinonia. Un mot grec qu'on utilise régulièrement depuis ces deux dernières années. On va encore en parler avec moi ce matin. Le cœur de mon message, le titre de mon message, c'est « Comment transformer nos conflits relationnels en opportunité. Comment concrètement continuer d'être une église où les tensions relationnelles sont transformées en opportunités. » Auxerre, année 2015 après Jésus-Christ. Je quitte l'Épi et j'arrive pour la première fois de ma vie en fonction de pasteur principal dans une église. Je succède au pasteur Moïse Lambert que j'embrasse, qui a été vraiment un père pour moi. Et je ne le sais pas encore, mais je vais vivre en même temps l'expérience pastorale la plus forte, la plus intense, la plus belle que j'ai jamais vécue, mais aussi une des périodes les plus éprouvantes de ma vie. Rapidement, en vivant avec l'Église, je ressens une lourdeur au sein de l'Église, comme une sorte de tristesse qui est diffusée comme cela. Extérieurement, nous étions accueillants, mais intérieurement, dans les échanges, quand je voyais les gens, il y avait quelque chose qui clochait. Alors j'en parle aux responsables, aux leaders. Et une histoire ancienne remonte à la surface. Plus de 20 ans auparavant, avant que j'arrive, alors toute histoire que vous pourriez connaître avec d'autres églises, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais dans les églises évangéliques. Mais une histoire de plus de 20 ans en arrière révèle un conflit vraiment sérieux qui avait éclaté et qui a laissé des cicatrices profondes, au point même que 20 ans après, on en parle encore. Avec le nouveau conseil d'église qui était constitué, on était tout frais, là, on était tout beau, on était prêts, on avait à cœur de servir Dieu de tout notre cœur. Là, il y avait quelque chose à gérer, à accompagner, parce que l'église était en souffrance. Alors nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons réfléchi, travaillé à une réconciliation avec les personnes qui étaient parties et qui s'étaient constituées en église, et qui était une église implantée maintenant depuis plus de 10 ans. Après 1 an et demi de dialogue et d'efforts, je vous épargne les coups de fil où on répond pas, on essaye de rencontrer les gens, toutes ces choses-là. Nous étions sur le point de réussir. Il y avait de nouveau du dialogue. On se parlait, mais le dialogue profond, vous savez, pas celui-là du bonjour, bonjour, ça va. Non, c'est bonjour, alors est-ce que t'as guéri ou pas? Là, à l'intérieur, profondément, quand on l'enlève, la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4, là. Est-ce qu'il y a du pus au fond ou bien c'est vraiment bien cicatrisé? On était sur le point de réussir. Il y avait de nouveau un dialogue, un début de confiance, et nous avons mis en place un processus qui est simple, qui est clair. D'abord, rester lucide. Nous savions que nous ne pourrions pas tout résoudre. On n'a pas la capacité de tout résoudre. Mais nous voulions être déterminés à offrir un point d'ancrage aux gens qui avaient besoin de cette réconciliation pour se reconstruire. Nous avions cette vision, on ne pourra pas tout régler, mais on va tout faire pour que les gens puissent guérir. Deuxièmement, restez lucide, mais deuxièmement, poser des actes. Parce que c'est bien de le dire, c'est bien de prier, mais après il faut poser des actes. Et ensemble, nous avions rédigé une lettre de pardon, les deux leaderships d'église, de réconciliation. Et l'idée, c'était de pouvoir lire cette lettre chez l'église et prendre la scène ensemble et de venir dans notre église lire cette même lettre et prendre la scène ensemble. Tout était posé devant le Seigneur. Mais une épreuve inattendue a failli faire tout échouer. Un dimanche matin, une nouvelle personne arrive dans l'église. Et après un rendez-vous avec elle, elle insiste pour se faire baptiser. On commence un accompagnement. Et au fil de nos échanges, l'église soutient parce qu'il y avait des problèmes matériels, spirituels ou autres. Au fur et à mesure, on prend conscience que la personne n'est pas dans une démarche chrétienne. On essaye de l'accompagner parce qu'il y a une incohérence entre ses paroles et ses choix de vie. Et on découvre très rapidement qu'il y a beaucoup de mensonges. Et limite, mythomanie à un haut point, sans s'en rendre compte après. Et alors on essaye de l'accompagner, on essaye de confronter sur ces points-là, dire écoute, tu peux pas être disciple de Jésus et vivre dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Faut que tu arrives à aligner ta vie avec la vérité. Et il n'a pas supporté qu'on le confronte à ses pratiques de mensonge, à ses pratiques mythomanes. Et il a finalement décidé de faire tout ce que en général on fait quand on n'a pas envie d'affronter les choses, on fuit. On va quitter l'église, on garde contact, on essaye de garder contact, mais il va partir. Et étrange coïncidence. Devinez où il va demander à être baptisé. Dans l'église avec laquelle on avait eu un conflit et qu'on essayait de résoudre l'affaire. Il arrive dans cette église alors qu'on est en pleine tentative de réconciliation et il va y semer la zizanie. Il va comporter des accusations, des calomnies. On va essayer de se voir avec les leaders de l'autre église, mais malgré tous les avertissements, l'autre église choisit de le baptiser assez rapidement. Au bout de 2 semaines, c'était plié. Et peu après, je découvre, écoutez-moi bien, je découvre qu'il est apparu sur une chaîne de télévision nationale se présentant comme un représentant d'une association religieuse non chrétienne, mais d'une autre religion. Et cette association a démenti après son passage sur cette chaîne les propos, et la chaîne aussi, elle a enlevé l'émission avec cette interview-là. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire-là ? Après son baptême, il disparaît d'Auxerre et il laisse derrière lui tout, famille, église, amis. Et cela a fortement dégradé les relations avec l'autre église. Une des périodes les plus horribles de toute ma vie. Vous savez, j'ai vu des démons, littéralement, j'ai vu des démons être chassés. J'ai vu des malades être guéris. J'ai appris à revenir à Dieu et demander pardon pour mes péchés. Et croyez-moi, revenir à Dieu et demander pardon pour les péchés, c'est dur. Mais croyez-moi, rien n'a été aussi éprouvant que de travailler à la réconciliation, que ce soit entre églises, entre chrétiens ou entre familles chrétiennes. À chaque fois, ça a été pour moi les plus durs combats spirituels. Je crois aujourd'hui que de bonnes relations entre chrétiens, ce qu'on appelle la koinonia, la communion fraternelle, ce n'est pas juste une question d'émotion. Non, la koinonia n'est pas une option, les amis. La koinonia, c'est un commandement de Dieu. Les bonnes relations entre chrétiens, ce n'est pas une option, un style de vie que je choisis ou quoi, mais c'est un commandement de Dieu. Alors que Jésus vit ses dernières heures sur terre, il intensifie et il approfondit ses enseignements. Et là, Jésus aborde un point chaud, celui de la question du plus grand commandement. Jean chapitre 13, verset 35. Mais on peut commencer un tout petit peu plus haut, verset 31. Quand Judas fut parti, Jésus dit, « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais ce n'est plus pour longtemps. Vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez aller. » Je l'ai déjà dit aux foules, je vous le répète à présent, car c'est aussi vrai pour vous. Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque, par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Les bonnes relations entre chrétiens ne sont pas un décret politique, les amis. C'est pas une invention humaniste tendance. C'est un commandement divin avant tout. Et s'aimer fraternellement, c'est gérer les conflits de manière régulière, gérer les conflits régulièrement. Vivre de bonnes relations, c'est intégrer qu'il y aura inévitablement des conflits. Et ici, je voudrais faire un petit disclaimer. C'est que quand je parle de conflits, Je ne parle évidemment pas ici de conflits qui enfreignent les lois protégeant la vie, le bien-être et les droits de chaque citoyen. Je ne parle pas de ces conflits-là parce que là, Dieu a établi des autorités. Comme l'explique l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 13, les versets 1 à 4, les gouvernements et les autorités sont établis par Dieu. Et souvenez-vous qu'à l'époque, gouvernement et autorité, c'était des Romains, donc un gouvernement antichrist, d'accord ? Les gouvernements et les autorités sont établis par Dieu et il est important pour les croyants de leur être soumis. Et un peu plus loin, il dit, il souligne encore que les gouvernements, en tant que serviteurs de Dieu, ont le pouvoir de punir ceux qui font le mal. Il le symbolise dans le texte par l'épée, qui représente l'autorité de punir et d'exercer la justice. Donc je ne vous parle pas de conflits, de conflits qui vont être en lien avec des choses pénalement répréhensibles, d'accord ? Comme toutes les églises locales, l'épée est impliquée dans trois domaines où des conflits peuvent surgir. D'église à la société, ou société-église, église-église, chrétien-chrétien au sein d'une église locale. Alors je vais dire une grande vérité ce matin. Je pense que j'ai reçu cette révélation ce matin à 1h au moins du matin. Nous sommes différents. Voilà, c'était Mathieu Thoman, merci à tous. Nous sommes tellement différents. Nous ne sommes pas nécessairement meilleurs amis. Nous avons notre personnalité. Alors ça va matcher ou ça va pas matcher ? Nous avons notre vie, nos galères, nos projets, nos agendas, notre éducation, notre culture, notre personnalité, notre construction. Et celui que nous aimons, pour qui nous avons donné notre vie, nous dit ceci : je vous donne une directive. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas possible. C'est dur. C'est dur, Seigneur. Il ou elle n'est pas comme moi. Ce qu'elle fait, je ne l'aime pas. Comment il s'habille, ça ne me correspond pas. Et en plus, quand il prie, il ouvre pas la bouche, miskine. Normalement, la vraie prière, c'est ouvre ta bouche, tu cries à grosse voix. Pas les prières intérieures, juste comme ça, alors. On est tellement différents. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Vous savez, on idéalise parfois l'église du passé. On idéalise parfois l'église primitive des Actes des Apôtres, alors qu'elle a vécu des nombreux conflits en interne. Il y a eu dans l'église du favoritisme, Actes chapitre 6. Une tension se développe dans l'église de Jérusalem entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque qu'on appelle les hellénistes. Les hellénistes dans l'église se plaignaient que les veuves étaient négligées dans la distribution de nourriture. Et ils rapportent cela, ils disent « c'est pas juste par rapport aux veuves d'origine juive, nous on est délaissés ». On n'est pas respecté. Et pour résoudre ce conflit, les apôtres, la gouvernance d'église de l'époque, ont proposé de nommer 7 personnes consacrées, sages, pour s'occuper de cette tâche. Et là, on a un rappel précieux. L'église doit refuser tout favoritisme. Au contraire, l'église doit apprendre à s'accueillir mutuellement, se soutenir, s'entraider, quel que soit l'arrière-plan culturel ou social. Amen ? Petit amen, mais ça va monter en puissance, je pense. Dans l'église primitive, il y avait aussi des problèmes d'hypocrisie. Lettre aux Galates, chapitre 2. Paul écrit et il parle de ce conflit entre Pierre et Paul. Ce sont deux leaders importants de l'église et ils vont littéralement s'affronter à Antioche. Pierre, d'abord ouvert aux non-juifs, va soudainement changer de comportement sous la pression de certains conservateurs juifs et il va arrêter de manger avec les non-juifs quand les personnes juives consacrées, les personnes vraiment de la haute sphère spirituelle sont là. Et il va ainsi créer de la division. Et Paul ne peut pas rester silencieux. Et il le vit vraiment comme une attaque à l'évangile que Jésus lui-même prêchait. Alors il va confronter Pierre devant ceux qui sont présents à ce moment-là et il va dénoncer son hypocrisie. Et ce conflit illustre encore une fois la difficulté qu'ont parfois nous les chrétiens à être authentiques, à être vrais, sans hypocrisie en fonction de la personne en face de qui on est. On s'adapte beaucoup au public auquel on est en train de parler, n'est-ce pas ? Parfois on est un peu comme des lézards, quoi. Ah ! Ouh ! Quand j'étais à Auxerre, j'ai eu un rendez-vous avec une leader d'église, il y avait son époux, il y avait l'équipe pastorale qui était avec moi, et il fallait échanger, notamment sur une pratique que cette leader mettait en place, notamment sur sa théologie de la démonologie, donc tout l'ensemble des textes qui parlent des démons, etc. Et en parlant avec elle, on se rend compte, elle et nous, qu'on n'est pas alignés sur la même théologie que l'Église. Et on parle avec elle, on dit, bah, écoute, là, ça peut pas, tu ne peux pas enseigner, par exemple, des enfants sur cette théologie qui est complètement en désaccord avec ce que l'Église croit, ce que l'Église pratique. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Et fraternellement, on échange et puis la personne va décider de quitter l'Église et on convient ensemble qu'elle est toujours la bienvenue, elle était OK pour ça. Tant qu'elle ne diffuse pas aussi cette doctrine-là, nous, on la respecterait dans l'Église où elle est. On ne va pas venir dans une Église pour dire, hey, vous prêchez mal ou vous enseignez mal, mais... Quand vous venez aussi à l'EPI, respectez aussi notre théologie, notre doctrine. Hein, aimons-nous les uns les autres, ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens en fait. Hein. Et du coup, on échange et elle est complètement d'accord avec ça. Et même son époux qui est là, qui fréquente encore aujourd'hui l'église, complètement d'accord avec ça. Et un jour, elle visite l'église. Et direct, elle va identifier qui sont les jeunes baptisés de l'église. Elle va aller les revoir, elle va commencer à les enseigner sur ses principes démonologiques. Puis elle va voir une autre leader de l'église, elle va essayer de lui expliquer encore qu'il faut bien croire comme ça, bien ceci, bien cela, et elle le fait comme cela. Bien sûr, un peu en misquine justement, tu vois. Et la leader lui dit, mais tu sais très bien que c'est pas ce qu'on croit dans notre église, arrête de parler de ça, on n'est pas là juste pour faire des débats théologiques, on est là ce matin pour adorer le Seigneur. Donc elle la confronte avec maturité pour dire, arrête. Et puis quelques jours plus tard, on avait gardé bon contact, alors je viens prendre le café chez eux, on échange, on lit la Bible, et... Moi, avant d'aller les rencontrer, j'avais demandé à cette leader qui avait été interpellée, je lui ai dit, écoute, tu me permets d'en parler si jamais le sujet vient et que je veux en parler avec elle. Ah oui, moi j'assume complètement, je lui ai dit en face, je lui redirai encore en face, je suis complètement droite. Là, c'est de la maturité, là. Je ne vais rien cacher, je suis droit, là. J'arrive chez eux, je bois le café, et puis je dis, tu sais, c'est dommage, mais tu n'as pas respecté notre accord de quand tu viens chez nous, c'est pas juste, ta mission, c'est pas juste de nous convertir à ta théologie de démonologie, là, en fait. Ah, mais je ne l'ai pas fait. Ah non, je t'assure. Je dis, bah écoute, tel leader a bien confirmé les propos, en fait. Ah, parce que maintenant, ça parle derrière. Non, ça parle pas derrière. Elle t'a dit devant, elle a dit qu'elle assumait, elle pourrait être là avec nous, elle te dirait la même chose. Ça s'appelle pas parler derrière, ça s'appelle de la maturité relationnelle, en fait. Parce qu'on veut rien qui soit caché. On veut tout emmener à la lumière, on le fait avec bienveillance. Mais à un moment donné, l'hypocrisie, la Bible dit qu'il faut chasser l'hypocrisie du milieu de l'Église. Et là, on est dans la maturité. Parce que vivre la koinonia, entretenir de bonnes relations entre chrétiens, ce n'est pas être en symbiose sur tout, mais être vrai envers tous, être constructif envers tous. Parce que s'aimer fraternellement, c'est mon deuxième point, c'est gérer les conflits intelligemment. La communion fraternelle nous invite à gérer nos conflits de manière intelligente, de manière mature, de manière sage. Comment ? En posant des actes de bienveillance, d'amour, de soutien, de vérité, de respect, de paix, de patience. S'aimer fraternellement, c'est apprendre à transformer les conflits en opportunités. À l'EPI, nous essayons tant que possible de pratiquer et d'encourager un principe dans notre gestion de conflits. Et j'aimerais vous le repartager ce matin. Le principe est le suivant. Quand c'est encore possible... Résolvez le conflit dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing. Je le redis. Quand c'est encore possible, résolvez le conflit dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing. James Dobson, qui est un psychologue et auteur spécialisé en relations interpersonnelles, a dit ceci. Quand vous découvrez que vous êtes dans le mauvais train, descendez au plus tôt. Plus vous attendez... Et plus le prix du billet retour sera cher. Ça, c'est un bon principe en gestion de conflit, les amis. Pour minimiser les dommages, que ce soit pour les personnes concernées, l'Église ou alors la société, il y a généralement deux premières sphères où les conflits devraient être résolus dans le meilleur délai possible. Et ça, je m'inspire et on s'inspire ensemble de Matthieu chapitre 18, qu'on connaît bien, nous les chrétiens, à partir du verset 15. Si ton frère a péché... contre toi. Va, reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La première sphère, c'est le seul à seul. Vous savez, entre adultes, entre personnes matures, censées représenter Christ sur la terre. Jonathan Lehman, qui est un théologien, qui est expert en vie d'église locale, écrit ceci. Tout ce qu'un ambassadeur est, dit et fait, représente son roi. Voilà ce qu'il en est du chrétien et du Christ. Il dira un peu plus loin, Jésus semble avoir deux préoccupations. Premièrement, que le pécheur se repente, et deuxièmement, que le nombre de personnes impliquées demeure le plus réduit possible en vue de la repentance. C'est toujours plus facile ce process quand il n'y a pas d'hémorragie. La première sphère, le seul à seul, le tête à tête, dans la maturité, dans la droiture, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la bienveillance, dans la grâce. Si cela n'est pas possible, il y a une deuxième sphère qui est alors mise en place normalement. C'est des rencontres qui se préparent avec les personnes compétentes et les personnes réellement concernées. Parce qu'on la connaît, monsieur Commérage ou madame Commérage, qui n'est pas concernée mais qui va jeter son venin. Là, il est question de préparer ces rencontres, de préparer une tentative de réconciliation, de peut-être de médiation pour qu'on puisse parler, pour trouver une issue avec les bonnes personnes, les personnes compétentes et avec les personnes réellement concernées par le conflit. Et tout ça en veillant à être à l'écoute de tous les sons de cloche avant d'enclencher quoi que ce soit. Matthieu chapitre 18, verset 16. « Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Je remercie Raymond Pierre ici, parce qu'il a fait toute une étude sur ces textes, et donc il m'a partagé ça, ça m'a permis vraiment de me replonger dans tout ce qui est dit sur le sujet. Et voilà, je voulais juste le dire, c'est une partie de son travail. Donc un grand merci à lui. Comme ça, on est fidèle, on dit les sources et on ne dit pas que ça vient de nous. Ok ? Ici, Jésus fait référence à Deutéronome, le chapitre 19, le verset 15. Voici ce que dit le texte. « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. » Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Dans le contexte ici, Dieu souhaitait que les Israélites prennent toutes les précautions pour s'assurer d'intenter les démarches avec soin et de manière équitable. De même, Jésus, en prenant ce texte et en l'enseignant là, désire que les dirigeants et les membres de l'Église jugent consciencieusement chaque situation. Alors oui, je suis d'accord, ça exige une énorme maturité. Une énorme maturité. Ils ont à considérer, leaders et membres, les points de vue différents et les circonstances atténuantes. Jonathan Lehman dira encore à ce sujet, « Aucun jugement ne devrait être posé à la hâte. Les chrétiens devraient avancer lentement, de façon réfléchie et avec grâce. » Alors voici une donnée qu'il nous faut avoir à l'esprit en tant qu'Église quand on lit Matthieu 18. Et qu'on est implanté en France en 2024. En France, les pasteurs et responsables d'église, comme le conseil d'église chez nous par exemple, on est soumis au secret professionnel. Dans le contexte d'église, dans le contexte religieux, on dit soumis au secret de la confession. C'est-à-dire que quelque chose qui est partagé dans le cadre du pastorat est soumis au secret professionnel et c'est la loi qui le décrète. Si un majeur, membre de l'Église, en conflit, va nous demander, par exemple, de garder certaines choses confidentielles, nous avons l'obligation de le respecter. Nous, les leaders, les responsables en Église, c'est l'obligation qu'on a. C'est pourquoi j'en appelle à la maturité de l'Église pour qu'on puisse pratiquer Matthieu 18 avec une grande sagesse. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège d'un son de cloche, mais de prendre du recul et d'encourager à résoudre le conflit dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing. Si la personne nous dit cela, on va le respecter, nous respecterons sa demande, mais on va quand même lui expliquer avec droiture et avec vérité que si c'est ta décision, nous ne pourrons pas écouter tout le monde, tous les points de vue, et donc c'est impossible de prendre des décisions éclairées. Tu mets notre tentative de réconciliation, notre tentative de paix en péril, et il faut trouver une issue, parce qu'on pourra pas prendre de bonnes décisions, on pourra pas offrir un accompagnement efficace pour résoudre ce problème. C'est dit, c'est formulé. Et à chaque fois que nous en parlerons avec la personne, évidemment, nous prions, nous faisons de la relation d'aide, nous aidons à ce que les personnes aillent mieux dans leur vie et avec Dieu et avec les autres. On priera ensemble, on l'encouragera, toujours malgré tout, à résoudre le conflit dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing. Donc de ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Merci beaucoup, frère. Il y a une troisième sphère que je vais développer avec vous et qui concerne le verset 17 de Matthieu 18. Et là, il est question de la gestion d'un conflit qui va impacter la sphère maintenant publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était peut-être entre deux personnes, puis peut-être après, c'est entre quelques familles ou des amis. Et à un moment donné, parce que ça parle, parce qu'on ne choisit pas le bon cadre, les personnes compétentes ou quoi, ça commence à se répandre dans l'église. Là, quand on arrive à là, la personne n'a peut-être certainement pas, ou des personnes n'ont pas changé d'attitude, ne sont pas repenties malgré tous les efforts. Et surtout, le péché ou les commérages sont, où le péché est si grave et ça rend visible, ça commence à sentir mauvais et ça commence à impacter encore plus de personnes. Matthieu chapitre 18, verset 17 dit ceci. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un peuple et le collecteur d'impôts. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la communauté du Christ et cette personne qui ne désire plus ressembler à Christ. Alors les pratiques de ces textes varient d'une église à l'autre. Mais voici ce que nous croyons et voulons mettre en place ici, à l'EPI. Nous assumerons toujours en conseil d'église, donc je rappelle pour peut-être des personnes qui nous visitent pour les premières fois, à l'EPI, l'accompagnement global de l'église se fait avec un conseil d'église qui est composé de l'équipe pastorale, du conseil spirituel et du conseil d'administration. Et pour des situations qui pourraient toucher des conflits assez intenses, des situations complexes, inappropriées, conflits entre membres, à un moment donné, le conseil d'église est là pour accompagner, gérer et essayer de trouver une issue qui permettra à tous de guérir et de continuer d'avancer. Et nous assumerons toujours en conseil d'église la gestion des situations complexes, inappropriées, de conflits entre membres, tout en veillant à ce que cette estrade-là, peut-être publique, ne devienne jamais un lieu de jugement ou d'humiliation. Cette estrade-là, où nos communications publiques, et là, ce n'est pas que nous, conseil d'église, j'interpelle tous les membres de l'église. Elles ne sont pas là pour exposer la vie des gens, qu'ils soient fautifs ou non. Nous chercherons le meilleur moyen de respecter la vie privée des gens, tout en garantissant que l'église et ses membres ne soient pas floués, manipulés ou mal informés. Vous comprenez alors qu'on a besoin de toutes les prières de l'église. Vous comprenez alors qu'en 2024, on a besoin d'une église avec une maturité qui comprend ces textes et qui comprend que le plus important, c'est honorer Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain. Vous vous souvenez de l'église avec laquelle j'étais en conflit et l'église locale avec qui je servais était en conflit. Notre relation, vous savez, elle était tendue, tout ça a détérioré, mais il n'y avait pas qu'avec elle que c'était détérioré. En fait, cette situation, elle était venue impacter le conseil d'église. On a été profondément ébranlés. On a commencé à avoir des doutes de loyauté les uns envers les autres. C'était horrible. Quelqu'un m'appelait, je raccrochais, je dis, mais est-ce qu'il me dit vraiment la vérité? On était perdus. C'était compliqué, c'était de l'oppression. On sentait vraiment que là, quelque part, il y avait quand même une oppression diabolique qui voulait détruire toutes ces communautés et tous les chrétiens. J'ai eu des doutes sur certains ont eu des doutes sur moi. On a dû faire face à de la calomnie, des mensonges, de la manipulation. C'était chaud. Mais avec l'aide de Dieu, dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing, Dieu a transformé ce conflit en opportunité. Nous avons malgré tout pu aller au bout du processus de réconciliation. Je me souviendrai toujours. On est arrivé dans leur église, c'était un peu tendu quand même. Et puis là, le pasteur m'a accueilli. J'avais la lettre qu'on devait lire. Et on est monté et on l'a lu ensemble. On est descendu, on a pris les éléments de la scène. Et notre église a servi l'autre église. Puis on est allé dans notre église et on a lu ce document conjoint. Et les leaders de l'autre église ont servi la scène dans notre église. Et ça a été un ancrage pour des personnes, pour pouvoir guérir de cette situation. Vous savez ce qui s'est passé? L'église a été libérée d'un fardeau. L'église a commencé à vivre une nouvelle saison spirituelle. Le conseil d'église a pris une toute autre envergure dans l'accompagnement des disciples. Les relations sont devenues solides, authentiques et avec une confiance qui a été renforcée. Et je ne le savais pas encore à l'époque, mais dans quelques années, je devais leur annoncer que je retournais à Strasbourg et qu'ils allaient devoir gérer une église sans pasteur sur place pour la première fois de leur vie depuis 60 ans d'existence. Ce conflit est devenue une opportunité pour mûrir et pour grandir. Dieu a béni l'amour qu'on a eu les uns pour les autres. Pendant ces 2 années sans pasteur sur place, j'ai pu observer à distance, parce que j'étais en responsabilité de présidence, mais eux faisaient le job sur place, le ministère pastoral sur place. J'ai pu observer de la maturité, j'ai pu observer leur courage dans la gestion de l'église. Ils ont pris soin des gens, ils ont pris soin des nouveaux, ils ont pris soin des leaders, en attendant de pouvoir collaborer à nouveau avec un pasteur. Et ils étaient impatients de pouvoir pouvoir le faire. L'Église a baptisé plus de personnes que quand j'étais sur place avec eux. Puis là, elle me dit un grand amen, c'est incroyable quand même. Je suis tellement fier d'eux. Alors oui, j'aurais voulu éviter ce conflit, mais ce conflit a été une opportunité pour ces leaders de grandir. L'Église a récemment baptisé en août des personnes et l'Église va continuer à baptiser des personnes en septembre encore. Et le dimanche 15 septembre, je m'envole pour la belle ville d'Auxerre pour établir un nouveau couple pastoral. Et c'est une grande joie pour cette Église. Dieu a été fidèle malgré les conflits qu'elle a vécus. Est-ce que je peux entendre vraiment un grand amen et qu'on puisse juste dire merci à Jésus ? Dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le bon timing, Dieu a transformé ce conflit en opportunité. J'aimerais maintenant qu'on puisse prendre un temps, je parlais de gestion, résolution de conflit, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, de louange et de pouvoir ensemble réfléchir, méditer. Quel est ton conflit actuel ? Ça se peut que tu n'es pas en conflit et bénis Dieu, on aura besoin de toi dans un instant pour prier. Mais au-delà de prier aussi pour peut-être quelqu'un qui vit des temps de conflit, des temps de tension, ce matin, j'aimerais qu'on puisse dégager un temps pour prier pour tous les responsables de l'Église qui ont à prendre des responsabilités. Et s'ils se sont engagés, vous savez c'est pourquoi ? C'est pour que l'Église soit un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps pour prier pour tous les leaders, les bénévoles de l'Église qui sont confrontés au vivre ensemble, à la gestion relationnelle. Alors dans un premier temps, on va prier pour les personnes et on ne mettra personne mal à l'aise, vous inquiétez pas, mais je reste convaincu que sur 650 personnes présentes ce matin, il y en a au moins une qui vit un conflit relationnel avec quelqu'un. Et on voudrait juste en tant qu'Église prier pour vous, pour que Dieu vous donne le bon cadre, les bonnes personnes et le bon timing. Que vous soyez entouré de personnes bienveillantes, des personnes qui vous aiment, des personnes qui aiment Jésus, qui pourront vous accompagner. Ensuite, on va avoir un temps de prière chantée, on va se souvenir des bontés de Dieu, et ensuite on va prier pour tous les leaders de l'Église. On peut se lever ensemble dans la présence de Dieu. Si tu es confronté, ta famille, peut-être tu es en visite ici, et ton église locale, là où tu es, dans la ville où tu es, est en conflit avec une autre communauté, sache que c'est possible de se réconcilier d'église à église. Auxerre l'a vécu, L'Épi l'a vécu, d'autres églises l'ont vécu. Mais là, il s'agit peut-être de ta vie personnelle, privée, où tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors si tu vis un conflit relationnel, en église ou autre, que tu aimerais qu'on puisse prier en église pour toi, que je puisse prier pour toi, accompagner des prières de l'église, fais-toi juste connaître, que je puisse vraiment t'identifier et puis prier avec toute ma foi, toute ma bienveillance. Si tu as besoin d'une résolution de conflit, quelque chose, tu es concerné par cela, lève juste ta main ce matin, que je puisse, voilà, je vous vois. Voilà, si tu as besoin de paix dans tes relations, je vous vois aussi. Et plus important, Dieu vous voit ce matin. Dieu va vous donner le bon cadre, les bonnes personnes. Le 1-1, ou alors être entouré de personnes vraiment constructives. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui passent par des moments tendus, peut-être en famille, en église ou autre. Au travail, je ne sais. C'est pas simple, Seigneur. Parfois, c'est aussi tellement douloureux quand on est en souffrance relationnelle et qu'en face, c'est d'autres chrétiens qui nous font du mal ou à qui on fait du mal. Je te prie de renouveler les forces des personnes qui ont demandé la prière ce matin. Tes bontés, la Bible dit, se renouvellent chaque matin. Je te prie d'aider chacun à ce que le conflit puisse être résolu. Je te demande, Seigneur, ta sagesse et que tu remplisses chacune de ces personnes de sagesse. Parfois, nous sommes aussi, nous, à l'écoute de certains conflits et donne-nous la manière d'accompagner, d'écouter, d'aider, de conseiller, Seigneur Jésus. Je crois que cette année, c'est une occasion pour plusieurs de vivre des temps de réconciliation, des temps de guérison, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que notre passé n'a pas d'avenir et que le passé, tu l'as réglé à la croix du calvaire en nous donnant la force de nous dire les choses, de nous demander pardon et d'être accompagnés au besoin vers le chemin de la guérison, du pardon, de la réconciliation. Alors ce matin en église, nous prions que le miracle de la guérison relationnelle prenne place au nom de Jésus. Et si l'Église est d'accord avec cette prière, pour les personnes qui ont levé la main, vous pouvez dire un grand Amen. Amen. On reste à votre écoute. L'équipe pastorale est là. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On sera à votre écoute et on essaiera, dans le bon cadre, avec les bonnes personnes et dans le meilleur délai, de vous bénir et de vous accompagner. Chantons, prions les bontés de Dieu et on reviendra prier pour tous les leaders.
Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'aide, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'aide, combien mon Dieu est grand. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira ta bonté. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner.
Hier, nous avons eu notre rentrée des leaders. Qu'est-ce qu'un leader à l'EPI ? C'est une personne qui a une influence, qui exerce une influence sur une équipe, sur un groupe de personnes, qui exerce des responsabilités. Nous avons eu un temps de prière les uns pour les autres, pour l'Église, parce que c'est la rentrée, parce qu'on veut porter du fruit, on veut voir Jésus agir dans la vie des gens. Et on s'est rassemblés ensemble. Et je voudrais demander un pas de courage à tous nos leaders et à tous nos bénévoles, toutes les personnes qui font partie d'une équipe de l'EPI ou qui sont investis, par exemple, dans Enjeux ou autres. J'aimerais vous demander, pour vous aussi qui êtes responsables de groupes de maison, des formateurs ou autres, je vous prends un peu sur le vif comme ça, mais je vous garantis que c'est venu comme ça. Alors dans la simplicité, je voudrais vraiment vous demander, c'est un moment où je pense que l'Église doit prier pour vous. Parce que vous le faites de tout votre cœur et les retours des sondages qu'on fait avec eux, il y a beaucoup de positifs. On aime servir Dieu, on aime voir les gens changer et tout, mais je crois qu'on a besoin de la prière de nos frères et de nos sœurs, n'est-ce pas ? Alors j'aimerais inviter toutes les personnes, responsables d'équipe, leaders, si vous pouviez juste venir sur le devant, que l'Église peut-être puisse vous voir prier pour vous. Alors j'aurais juste besoin que vous soyez assez rapide pour qu'on puisse vraiment vivre ce temps-là fortement. Donc voilà, tous ceux qui sont du ménage, tous ceux qui sont dans les groupes de maison, dans les groupes cadeaux, les enfants, enfin tous ceux qui servent. Je voudrais que vous puissiez juste vous approcher. Prenez l'espace sur le devant, s'il vous plaît, venez. Tous les bénévoles d'Enjeux aussi, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont investies dans Enjeux, notre association culturelle, les aiguilles solidaires, le vestiaire boutique, s'il vous plaît. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances. Les staffs jeunesse, les staffs cadeaux, s'il vous plaît, les groupes de vie arméniens, les repas fraternels, le conseil d'administration, conseil d'église. Et si vous êtes encore en congé, on a hâte que vous reveniez aussi. Tous les bénévoles, vous servez dans un service, les animateurs d'épisodes, les animateurs d'épichounes. Je voudrais inviter aussi les personnes de l'accueil, ceux qui servent, ceux qui sont investis, la librairie, tous ceux qui sont vraiment toutes les personnes en sûreté, les louangistes. Il y a une centaine de leaders à l'EPI et environ 300 personnes investies. Et notre prière, c'est non seulement qu'il soit béni, mais que vous veniez aussi apporter votre pierre à l'édifice cette année pour porter encore plus de fruits. Qu'est-ce que t'en penses, Anita ?
Mais complètement d'accord.
Je voudrais inviter l'équipe pastorale aussi à venir. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui, à un moment donné, ont eu un service à l'EPI. Ce matin, je veux honorer Achot, un service de plusieurs années dans ce bâtiment, Nariné. Soyez bénis. Plein de personnes qui, à un moment donné, ont été réorientées ou autres. On pense fort à vous aussi. On vous remercie. Alors, si vous avez encore un peu d'énergie, est-ce qu'on pourrait se lever ? Et on va prier pour toutes les personnes qui sont venues. On va demander à Dieu de les bénir. Je vérifie juste qu'il n'y en a pas qui ne viennent pas alors qu'ils devraient être là. Hein. Parce qu'on veut vraiment vous bénir ce matin. Oui, et puis il y a moi, c'est vrai, beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être tendre nos mains vers ces bien-aimés qui servent et demander au Seigneur de les bénir ? Seigneur, on a parlé de gestion de conflits ce matin. Parce qu'on veut être une église qui fait les choses avec sagesse, avec intelligence. Et on veut reconnaître qu'on a besoin de toi. Merci parce que nous vivons de belles choses quand on s'investit dans la vie des gens, quand on sème dans la vie des gens. Et cette année encore, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui se lèvent pour te servir. Et je crois aussi qu'il va y avoir des personnes ici qui vont se lever et découvrir que la joie de servir, la joie de l'Éternel est une force dans la vie. Et là, nous voudrions prier pour chaque personne, chaque bénévole, chaque responsable. Te demander de bénir, de renouveler, d'équiper. Que cette année soit l'occasion pour chacune et chacun de voir ta provision, de voir ta grâce, de pouvoir être une lumière et de voir les ténèbres s'en aller dans le nom de Jésus. Voir la vie prendre place là où il y a la mort. Voir des gens brisés être restaurés. Aide-nous à être un comme toi, tu es un. Aide-nous, Seigneur, à être un comme toi, tu es un, Père, Fils, Saint-Esprit, pour que le monde voit que nous sommes réellement tes ambassadeurs et tes ambassadrices. Saint-Esprit, secours-nous. La mission est impossible sans toi. Alors toutes les personnes et toutes les personnes qui travaillent, qui sont là dans des services, qui sont dans l'engagement, nous te prions qu'à chaque semaine, à chaque mois, tu renouvelles leur force comme l'aigle, Seigneur Jésus. Et que tu puisses nous permettre d'être une église bénissante qui porte du fruit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et si l'église veut encourager tous les serviteurs et les servantes, vous pouvez les applaudir et leur dire « Sois béni dans le nom de Jésus ». Un grand merci à vous. Vous pouvez reprendre place. Je vais finir en louange.
Juste avant de prendre le chant qui va clôturer la célébration, juste un rappel qu'il y a encore l'espace écoute et prière pour faire suite aussi, peut-être une réponse au message de Mathieu qui je pense est venu un petit peu peut-être brasser comme on dit au Québec à l'intérieur aussi pour par rapport à certaines personnes. Moi en tout cas ça m'a parlé, donc n'hésitez pas à venir, il y a l'espace écoute et prière juste à ma gauche, donc on va bien demander à la zone ici de bien vouloir juste libérer pour garder l'intimité, mais n'hésitez pas à y aller, et l'équipe pastorale cette chance-ci à votre disposition, on peut prendre un rendez-vous en semaine, on est là pour vous. Donc on prend le dernier chant ensemble.
Que ton nom résonne. Résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chantons ensemble, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Chante-le encore. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
résonne en ce lieu.
Chante-le là où tu es.
Que ton nom résonne en ce lieu.
C'est le nom de Jésus.
Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
Oui Jésus,
oh Jésus.
Que les murs tremblent.
Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
Jésus, nous te chantons.
Jésus, nous chantons ton nom
en ce lieu.
Oui, nous invoquons ton nom
en ce lieu.
Et nous proclamons roi.
Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs.
Encore Jésus, nous te chantons.
Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu.
Et nous te proclamons roi.
Nous te proclamons roi
en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs.
Que les murs tremblent.
Que les murs tremblent. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
que les murs tremblent.
Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous.
Chantons Jésus.
Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu.
Et nous invoquons ton nom.
Nous invoquons ton nom.
Oui, nous proclamons
ce lieu.
Tu es roi.
Oui, nous proclamons
roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs.
Que les murs tremblent.
Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus.
Alléluia. Gloire à toi Jésus. Nous vous souhaitons une bonne semaine bénie. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne.